Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, Miloš Zeman souhaite une armée européenne commune. Le Parti social-démocrate incite son ancienne vice-présidente à quitter le parti. Et le tennis à Wimbledon, Berdych et Zakopalova sont qualifiés pour le troisième tour. Lors d'une conférence à l'université Humboldt de Berlin ce jeudi, le président Miloš Zeman a critiqué l'approche de l'Union européenne qu'il trouve trop molle à l'égard des terroristes. Le président tchèque, en visite officielle en Allemagne, a comparé cette approche à la politique d'apaisement défendue par les puissances occidentales lors de la montée en puissance des nazis et des fascistes dans les années 30 du siècle dernier. Selon Zeman, toute négociation avec les terroristes conduit à un renforcement de leur pouvoir. Il s'est laissé entendre dire que la tâche principale de la politique étrangère commune de l'Union européenne était la lutte contre le terrorisme international. Zeman a ainsi appelé à une politique économique et militaire conjointe des 27 pays membres. Le parti social-démocrate CSSD incite son ancienne vice-présidente, Maria Benešová, à quitter le parti. Celle-ci a accepté le poste de ministre de la Justice au sein du gouvernement d'experts naissant de Jiří Rusnok, nommé ce mardi au poste de Premier ministre par le président de la République. Le chef de CSSD, Bohuslav Sobotka, a communiqué cette information ce jeudi, tout en affirmant que le gouvernement d'experts qui est en train de prendre forme sous la direction de Jiří Rusnok n'a pas de futur. Or, d'après Benešová, Jiří Rusnok s'est adressé à elle en tant qu'experte et non pas en tant que membre du Parti social-démocrate. Or, pour le chef des sociodémocrates, l'appartenance au parti n'est pas compatible avec la participation au gouvernement d'experts. Toutefois, Maria Benešová ne serait pas la seule personne issue du Parti social-démocrate à laquelle on aurait demandé de se joindre au gouvernement intérimaire. Les joueurs de tennis tchèques Tomáš Berdych et Klára Zakopalová se sont qualifiés pour le troisième tour de Wimbledon ce jeudi en battant les joueurs allemands. Berdych s'est imposé 7-6, 6-4, 6-2 face à Daniel Brands, tandis que Zakopalová a battu Annie Beck 7-6 et 6-3. Tous deux se préparent à affronter leurs prochains adversaires. Berdych s'opposera à Kevin Anderson d'Afrique du Sud pour la cinquième fois lors de cette saison. Quant à Zakopalová, elle devra affronter la chinoise Li Na ce samedi. L'équipe féminine de République tchèque de basketball a fait un grand pas vers la qualification pour le prochain championnat du monde. Les Tchèques ont battu ce jeudi l'équipe italienne 72-68. Si elles ont été battues par l'Espagne en quart de finale mercredi soir à Orki, elles ont remporté leur premier match de classement et se retrouvent très près de leur qualification pour le prochain championnat du monde. Malgré l'absence pour la première fois depuis 6 ans d'Usain Bolt, qui a préféré rester s'entraîner en Jamaïque, c'est un plateau de choix qui est réuni ce jeudi au meeting athlétique d'Ostrava. Pas moins de 7 champions olympiques de Londres et une trentaine de médaillés figurent au programme de l'une des plus belles réunions de la saison hors Ligue de Diamant. Les 100 mètres masculins avec Asafa Powell, le 5000 mètres avec Kenenisa Bekele, le 400 mètres avec Kirani James, le 100 mètres et féminin avec l'Australienne Sally Pearson de retour à la compétition ou encore la perche avec Elena Isinbayeva constituent quelques-uns des temps forts de la soirée. Les meilleurs athlètes tchèques actuels sont eux aussi tous présents, notamment Zuzana Hejnová, invaincue sur 400 mètres et cette saison, et le lanceur de javelot Vítězslav Veselý, vainqueur de deux concours de la Ligue de Diamants de cette saison. Pour finir la météo, ce vendredi, jour de fête de tous les Lubomir et Lubomira, le temps sera nuageux et des affaires sont à prévoir en Bohême centrale ainsi qu'à l'ouest du pays. Davantage d'éclaircies sont attendues au sud du territoire. Les températures restent fraîches pour la saison puisqu'elles varient entre 15 et 18 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité dont vous venez d'avoir un premier aperçu avec Denisa Tomanova, figure tout d'abord le rachat d'un des plus grands groupes de presse du pays par le milliardaire Andrei Babiš, un investissement qui pose question alors qu'Andrei Babiš entend s'engager dans la politique pour, affirme-t-il, lutter contre la corruption omniprésente. Plus de détails dans quelques instants. Autre thème d'actualité, le Sénat a approuvé mercredi un projet de loi relatif à la fermeture complète des commerces lors de 7 jours fériés dans l'année. En la matière, la République tchèque fait en effet figure d'exception en Europe puisqu'elle ne dispose d'aucune législation. Les commerces sont ouverts pratiquement tous les jours de l'année, aucune loi ne régulant leur fonctionnement. Et puis, comme tous les 15 jours, le jeudi, la seconde partie de cette émission sera réservée au tourisme. Cette fois, nous vous emmènerons au zoo de Prague qui se remet doucement des graves dommages, une nouvelle fois causés par les récentes inondations. Très bonne écoute. Faut-il craindre une berlusconisation de la politique tchèque ? Quoique sans doute exagérée, c'est néanmoins la question que se posait ce jeudi le site d'information irnet.cz. Désireux de s'engager dans la vie politique du pays, le milliardaire et homme d'affaires Andrei Babiš a racheté le groupe de médias Mafra, qui publie notamment les quotidiens Mladá Fronta Dnes et Lidové Noviny, deux des principaux journaux tchèques. Communiqué mercredi, l'information n'a pas manqué de susciter aussitôt certaines inquiétudes sur l'indépendance et la liberté d'expression qui seront désormais celles des journalistes du groupe Mafra. Propriétaire et directeur du groupe Agrofert, qui rassemble plus de 200 entreprises agroalimentaires en Europe centrale, Andrei Babiš est un personnage au profil quelque peu ambigu dans le paysage tchèque. Ancien communiste qui a fait sa fortune dans les années 1990 de privatisation sauvage, Andrei Babiš, slovaque possédant un passeport tchèque, est aujourd'hui considéré comme le deuxième homme le plus riche de République tchèque. Un homme qui pense que l'ancien président Václav Klaus a profité de la révolution de 1989 pendant que d'autres l'avaient faite et qui en 2011 a fondé un mouvement politique baptisé Anno 2011 pour Action des citoyens mécontents et dont la lutte contre la corruption est le noble et ambitieux objectif. C'est donc cet Andrei Babiš qui a racheté Mafra, dont les différents titres représentent plus de 2 millions de lecteurs tchèques. Depuis 1994, un des plus importants groupes de médias en République tchèque était la propriété d'une société allemande. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. Derrière le tabloïd Blesk, Mladá Fronta Dnes est le journal d'information le plus lu en République tchèque. Forcément, la question se pose donc de savoir si Andrei Babiš n'a pas quelques idées derrière la tête en investissant de la sorte à l'approche de la super année électorale 2014. Mais pas surpris par cette réaction, l'intéressé s'en défend.
Bien entendu, tous les médias en notre possession disposent d'une indépendance totale. Pour nous, c'est un investissement très important qui nous a coûté un paquet d'argent. Ce qui nous importe est donc que les journalistes écrivent et disent la vérité sur les sujets de leur choix. Cela veut dire qu'ils peuvent aussi écrire ce que bon leur semble sur mes activités, y compris des critiques s'ils estiment qu'il y a lieu de critiquer. Ce que nous voulons, c'est qu'ils vérifient leurs informations. En début de semaine, le journal E15 a publié l'information selon laquelle nous avions racheté le groupe de presse Ringier. Bien que fausse, l'information a aussitôt été reprise par tous les médias, et il est dommage que personne n'ait songé à la vérifier. Il aurait pourtant suffi de m'appeler. L'important est que les journalistes aient des sources auxquelles ils peuvent se fier. Après, oui, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent.
Lundi, en effet, était sortie l'information selon laquelle Andrei Babiš avait racheté Ringier, le plus important groupe de presse en République tchèque, qui publie notamment le tabloïd Blesk, journal le plus lu, avec plus de 430 000 exemplaires vendus quotidiennement. Analyste du marché des médias en République tchèque, Daniel Koppel estime lui aussi qu'Andrei Babiš est bien conscient de marcher sur des œufs.
Je pense qu'Andrei Babiš est quelqu'un de pragmatique et qu'il n'abusera pas ou ne se servira pas des médias à des fins personnelles et plus concrètement politiques. Du moins, pas de façon aussi ostentatoire ou aussi simplement que le suppose un grand nombre de journalistes aujourd'hui, même si cette crainte peut sembler légitime. Mais Andrei Babiš est aussi quelqu'un de très rationnel dans les affaires. C'est pourquoi il ne devrait pas trop intervenir dans le fonctionnement du groupe. Le seul domaine où il devrait intervenir est le domaine économique.
Ce jeudi, lors d'une conférence de presse du mouvement Anno 2011, dont il est le président, Andrei Babiš a effectivement confirmé qu'il ne siégerait dans aucun organe directeur de Mafra et se contenterait du rôle d'investisseur. Dans un souci de transparence et d'indépendance maximale, il entend ainsi à l'avenir ne pas parler avec les journalistes du groupe ni leur donner la moindre interview. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, je ne me mêlerai jamais de leur travail, a-t-il de nouveau répété, tout en précisant que sa position à la tête du mouvement politique pouvait être appelée à évoluer dans un proche avenir. L'ancien diplomate et commissaire européen Pavel Telička, qui a été un des principaux négociateurs de l'adhésion tchèque à l'Union européenne avant 2004, devrait ainsi rejoindre son équipe dans la perspective probablement des prochaines élections européennes, voire peut-être même de législatives, qui constituent la priorité d'Andrei Babiš. Le Sénat a approuvé mercredi un projet de loi visant à la fermeture de la plupart des commerces lors de 7 jours fériés de l'année. Face au vide juridique concernant le travail des employés du secteur commercial les jours de fête, la social-démocratie souhaite se rapprocher des normes européennes, mais cette proposition suscite une levée de boucliers de la part des chaînes de magasins ainsi que de la plupart des employés eux-mêmes. Plus de précisions avec Julien Maurice.
Actuellement, aucune loi ne régule les dates et heures d'ouverture des magasins en République tchèque. Cependant, la proposition acceptée par le Sénat conduirait à la fermeture des supermarchés lors de 7 jours fériés figurant dans le calendrier tchèque. Le jour de l'an, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 28 septembre, le 28 octobre et lors des fêtes de Noël les 25 et 26 décembre. Le texte prévoit également une limitation des heures de vente jusqu'à midi la veille de Noël, le 24 décembre, jour également férié. En cas de violation de l'interdiction, les commerçants pourraient alors être condamnés à une première amende d'1 million de couronnes, la peine pécuniaire pouvant atteindre jusqu'à 5 millions de couronnes en cas d'infraction répétée. Auteur de la proposition, le sénateur CSSD František Bublan explique ses motivations.
Un jour férié doit permettre aux personnes qui travaillent de se reposer et de se consacrer à une activité qu'elles aiment. Les jours fériés n'ont pas été inscrits au calendrier pour aller faire du shopping ou passer la journée dans un supermarché. C'est un peu un défi pour nous tous. Nous avons besoin de réfléchir un peu à ce sujet, sur l'origine de ces jours de fête. Ceci donne aux gens l'occasion de voyager ou de s'adonner à leur passe-temps.
Toutefois, cette restriction ne s'appliquerait pas aux magasins dont les surfaces de vente sont inférieures à 200 m², aux stations-service, aux aéroports, aux gares routières et ferroviaires, aux pharmacies, ainsi qu'aux établissements spécialisés dans l'hygiène et la santé. Les détracteurs de cette proposition sont nombreux, à commencer par le parti libéral ODS qui considère cette idée comme une ingérence dans la liberté d'entreprendre, portant ainsi atteinte aux droits des fournisseurs et des clients. Président du groupe ODS au Sénat, Jaroslav Kubera, n'hésite pas à parler de nouvelles mauvaises herbes dans le système juridique, tandis que son collègue Miloš Vystrčil dénonce, lui, le caractère très spécial de cette loi.
Si cette restriction était appliquée partout et pour tout le monde, je comprendrais la chose. Ensuite, j'adhère à l'idée selon laquelle une bonne vie de famille nécessite de ne pas aller faire de courses les jours de fête. Mais c'est très étrange que cette proposition ne concerne que certains magasins et certains jours fériés. C'est pour cette raison qu'il est fort probable que je ne soutienne pas cette loi.
Les chaînes de magasins expriment également leur mécontentement. Pour ces dernières, cette réglementation est inutile et arbitraire, puisqu'une étude récente a montré que 90% de leurs employés souhaitaient continuer à travailler les jours fériés. En effet, ces derniers sont souvent mieux payés que lors des journées ouvrables ordinaires. Toutefois, František Bublan précise que son projet de loi offrirait aux employés l'avantage d'un congé sans effet négatif sur leur salaire.
Ces 7 jours fériés ne sont pas excessifs si on les compare aux pratiques dans les autres pays de l'Union européenne. Nous sommes le seul État où l'ouverture de magasins n'est pas réglementée. La République tchèque est le seul pays où les magasins sont toujours ouverts le dimanche et pendant les fêtes de Noël. Nous voulons nous rapprocher de l'Europe civilisée en protégeant les employés des grandes surfaces.
Cette proposition va désormais être soumise à l'examen du gouvernement, puis éventuellement de la Chambre des députés. Mais il n'est pas sûr que la situation politique actuelle permette de porter une grande attention à ces journées de repos.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants pour la suite de notre programme. Vous le savez, comme tous les 15 jours, le jeudi, la seconde moitié de notre émission est réservée à la rubrique touristique. Et donc, pour cette nouvelle rubrique, nous vous emmenons cette semaine dans un quartier de Prague presque rural, le quartier de Troja. Ce quartier vert est bien connu des Tchèques pour ses vignes, son château baroque, son jardin botanique et son parc zoologique. Situé sur les bords de la rivière Vltava, le zoo, souvent appelé le joyau de Prague, n'a pas été épargné lors des dernières inondations du début du mois de juin. Plus de précisions avec Denisa Tomanova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Le zoo de Prague a été inauguré le 28 septembre 1931. Désormais, sa fréquentation d'un million de personnes par an en fait une des destinations les plus visitées en République tchèque. Il emploie 204 personnes dont l'âge moyen se situe autour de 39 ans et élève près de 4085 animaux issus de 696 espèces. Tels sont les quelques des nombreux sons idylliques de la jungle tchèque située au nord de Prague, à deux pas du château de Troja. Cependant, cette tranquillité apparente peut toutefois cacher une réalité beaucoup moins idyllique d'un des plus grands parcs zoologiques du monde. Les inondations du début du mois de juin ont provoqué d'importants dégâts, et même si elles ont été moindres qu'en août 2002, le nettoyage difficile se poursuit. Sous l'eau se sont retrouvés le pavillon des grands félins, les bassins des otaries ainsi que des flamands et l'enclos des cories également. Pendant plus de 13 heures, une centaine d'animaux a été évacuée des jardins inférieurs du zoo, appelés les îles des singes, et principalement tous les primates, comme les varirous, les colobayes de Zanzibar, les singes araignées, les singes écureuils, les tamarins et bien évidemment les gorilles. Ces mêmes gorilles qui suscitent l'attention depuis plusieurs années via la retransmission continue sur Internet de la vie dans leur enclos. Trois semaines après les inondations, nous avons rencontré Vít Lukács, le curateur des primates. Il nous dévoile comment s'est déroulée cette évacuation de 4 gorilles femelles, un mâle et 2 bébés gorilles dans la tour d'inondation située juste au-dessus de leur enclos à 7,10 m du sol.
L'évacuation des gorilles s'est déroulée en deux phases. Nous avons d'abord essayé de faire monter les animaux dans un tour anti-inondation, afin qu'ils n'y entrent pas par eux-mêmes, et ce en les attirant avec toutes sortes de friandises, comme des pommes, des raisins, des noix. En moins d'une demi-heure, il a été possible d'enfermer toutes les femelles ainsi que les jeunes gorilles. C'est une chose à laquelle on s'entraînait de temps à autre avec eux. Donc on prévoyait que ça se terminerait bien. Ensuite, on a essayé d'y attirer Richard, le mâle, ce qui, comme prévu, n'a pas été possible, vu qu'il est un peu peureux et conservateur. Il n'a pas voulu y aller. Donc nous avons fini par l'anesthésier et par le transporter par l'escalier dans la tour. Là, nous l'avons mis dans un des deux enclos, jusqu'au moment où il soit totalement réveillé. À ce moment-là, on l'a remis avec les autres, et depuis cet instant, ils ont été tous ensemble.
Cette tour anti-inondation, dotée d'un ingénieux système de régulation de température, avait été construite avec le nouveau pavillon des gorilles en 2001, seulement un an avant les grandes inondations d'août 2002.
La tour anti-inondation avait été planifiée dans le cadre de la construction du nouveau pavillon des gorilles en 2001. Et déjà lors des inondations en 2002, les gorilles avaient été délogés dans cette tour. Donc on était certain qu'elle fonctionnait bien.
Byly gorily nahnány do té protipovodňové věže, takže již byla oskoušená, že funguje.
Après avoir été nourris pendant 3 semaines à l'aide d'un bateau à moteur, les gorilles ont pu redescendre dans leur enclos, minutieusement nettoyé et rénové en un temps record, vendredi dernier. Étant donné que toute anesthésie et tout transfert d'animal à un autre endroit représente un état d'angoisse supplémentaire pour celui-ci, Vitlokash nous a affirmé que le retour à leur enclos habituel était un soulagement pour tous ceux qui avaient participé à leur sauvetage, et a souligné quelques moments forts de cette péripétie dangereuse.
V podstatě asi úplně nejsilnější moment zážitek byl ve chvíli, kdy jsme se...
Je crois que le moment le plus fort a été lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans un tour et que nous avons vu que les gorilles étaient en bonne santé. Bien entendu, ils étaient nerveux, mais ça se voyait qu'ils étaient contents que l'on soit avec eux. Il leur a fallu 2-3 jours pour s'habituer au nouveau régime, à l'alimentation, mais c'était incroyable d'observer qu'elles maîtrisaient de mieux en mieux la situation. C'était très fort de les voir fonctionner comme au sein de leur enclos habituel. Et bien évidemment, le lâcher des gorilles dans leur enclos, après pratiquement 3 semaines de veille 24 heures sur 24. Nous avons travaillé dessus jour et nuit, et je voudrais de ce fait remercier non seulement les éleveurs de la section des primates, mais aussi les 150 volontaires qui se sont relayés dans le pavillon. Ils nous ont énormément aidés, ainsi que des pompiers volontaires, des policiers, des gens du secteur technique. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont participé à ce que le pavillon soit remis en marche le plus tôt possible.
Le porte-parole du zoo Pragois, Michal Šťastný, nous dévoile le caractère unique du parc zoologique.
Pražskou zoologickou zahradu vyhlásil v roce 2007 prestižní magazín Forbes.
En 2007, le magazine Forbes a désigné le zoo de Prague comme le 7e meilleur zoo au monde. Et je crois que ce qui a influencé ce classement, c'est surtout son emplacement, car nous pouvons trouver tous les environnements que la nature tchèque peut offrir, comme les plaines côtières, des pentes de montagne où vivent les ongulés, ainsi que des plateaux supérieurs où vivent très bien les girafes et autres animaux. C'est pourquoi les animaux se retrouvent dans leur milieu naturel, et le jardin a de ce fait un caractère de génie, et les gens s'y plaisent beaucoup. Bien entendu, toute l'équipe de zoologues expérimentés, ainsi que d'autres collègues, avec en tête un directeur progressif, contribue à ce que le zoo de Prague fasse partie des meilleurs établissements en son genre dans le monde entier.
Si les dégâts matériels ont été moindres et les pertes de vies animales ont avoisiné le zéro par rapport aux inondations de 2002, pendant lesquelles plusieurs animaux ont dû être abattus, la différence fut également dans la gestion anticipée de la situation et en raison de l'expérience, ainsi que de l'actualisation progressive du plan d'évacuation des jardins inférieurs. Si l'évacuation des fauves a été la plus difficile, Michal Šťastný, tout comme Vít Lukáš, insiste sur l'entraide exceptionnelle de tous.
Odklízení škod začalo okamžitě po tom, co začala opadat voda. Díky pomoci dobrovolných hasičů.
Les travaux de déblaiement ont débuté dès que le niveau d'eau a considérablement baissé. Grâce aux pompiers volontaires qui ont enlevé la boue, tout allait très vite, et ce notamment grâce à l'action des bénévoles qui ont été près de 11 000 à s'inscrire pour nous aider. C'est pourquoi il a été possible de réouvrir le pavillon des gorilles en si peu de temps. D'un autre côté, il est l'heure de passer à des travaux spécialisés, en électricité par exemple, alors cela freine un peu la suite. Cependant, la coordination est bien meilleure qu'en 2002, grâce à l'expérience du passé. Et bien évidemment, la solidarité des gens nous aide le plus, que ce soit par leur participation à des concerts bénéfices, ou par l'envoi de SMS de dons, ou de dons financiers sur notre compte, ou bien entendu par la participation ici même dans le zoo d'individus ou d'entreprises.
Prostě nezištně pomáhají, ať už jednotlivci nebo celé firmy.
Si le zoo de Prague est subventionné en grande partie par la ville de Prague, le fait qu'elle ait été en quelque sorte sacrifiée aux inondations afin de protéger le centre de ville a été critiqué à maintes fois. Le nouveau maire de Prague explique la difficulté de la situation géographique du zoo.
Ta situace v Troji jednoduchá není, protože v důsledku Císařského ostrova a ústřední čistiny odpadů.
La situation à Troja n'est pas facile, car en raison de l'île impériale et de la station centrale de traitement des eaux usées, il s'agit ici d'un col étroit de la Vltava. Donc l'idée initiale, reposant sur le fait qu'il est nécessaire d'y laisser s'écouler les eaux de la Vltava afin d'empêcher une plus importante inondation dans le centre-ville, est justifiée. Une fois que nous allons nous ressaisir, nous devons donc dûment réfléchir et créer un projet s'interrogeant sur l'utilisation ultérieure de ce territoire.
À la question de savoir si la précédente direction de la mairie de Prague a sous-estimé les risques d'inondation, Miroslav Bobek, le directeur du zoo pragois depuis janvier 2010, ne veut pas polémiquer. Il admet néanmoins que les inondations ont ramené le zoo plusieurs années en arrière, car beaucoup d'efforts se sont volatilisés.
Vous savez, je ne veux pas juger de qui a fait quoi, quand et pourquoi. Je suis persuadé du fait que si la partie inférieure a été gravement abîmée pour la deuxième fois en 11 ans, cela constitue une raison valable pour que le dispositif anti-inondation soit construit ici, afin qu'une situation ne puisse se répéter.
Pour l'instant, le seul dispositif anti-inondation dont dispose le zoo est un barrage conçu pour le protéger des eaux d'une intensité de 20 ans. Or, les eaux avaient déjà débordé, même lors d'un débit moins intense. Si ces dispositifs font vif débat, Martin Šťastný, le porte-parole, assure qu'il n'est pas question de déménager.
L'espace du zoo est vraiment exceptionnel, donc renoncer à cette aire est chose impossible et déraisonnable. Nous n'envisageons donc en aucun cas cela, mais nous allons nous efforcer à ce que la partie inférieure soit mieux protégée des inondations, qu'elle puisse résister davantage à l'eau que lors de cette année et que les espèces difficilement maniables, comme les gorilles par exemple, puissent être transférées en un laps de temps dans un endroit sûr. Dans tous les cas, il n'est pas question d'une quelconque fermeture du parc zoologique ou ne serait-ce que de la partie inférieure, car ce serait insensé.
Il a tenu à souligner qu'il a déjà trouvé un endroit sûr pour le nouveau pavillon des gorilles afin d'éviter toute angoisse future en vue d'éventuelles nouvelles inondations. En attendant, il est possible d'aider le zoo par sa propre volonté et ce de plusieurs manières possibles.
La plus grande aide qu'il est possible d'apporter au zoo, c'est de venir le visiter. Si les gens continuent de venir au zoo, ils le maintiendront hors de l'eau, figurativement parlant. Il est aussi possible d'envoyer des SMS de dons. Il est aussi possible d'envoyer des dons sur le compte du zoo que les intéressés trouveront sur notre site web ainsi que sur notre profil Facebook. Bien évidemment, il est possible de surveiller nos appels d'initiative pour rejoindre les travaux de volontariat ici même ou bien pour participer à des événements bénéfices organisés au zoo ou ailleurs.
Si l'erreur serait de continuer d'investir dans une zone inondable située à 20 minutes à vol d'oiseau de la place Venceslas au centre-ville, abandonner l'endroit au charme irrésistible où se trouve le zoo serait un crime. Il semble plus que vital de repenser l'utilisation des jardins inférieurs et permettre un développement adéquat de la zone en relation avec le cours d'eau de la Vltava situé à 50 mètres de la frontière du zoo. Le zoo a néanmoins été témoin d'un heureux événement lors de ces inondations, un bébé Saïmiri commun, appelé plus communément singe écureuil, est né pendant ces journées dramatiques. Les éleveurs du zoo l'ont prénommé Plavaček, d'après le héros d'un très célèbre conte de l'écrivain tchèque du XIXe siècle, Karel Jaromír Erben, Plavaček signifiant « celui qui nage ».
Voilà, c'est sur cette belle note musicale que s'achève le bloc actualité préparé et présenté par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.